Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 du vendredi 19 avril 2019. En direct de Washington, Eric Manilakidza. D'abord le sommaire. Au Mali, le président Ibeka doit nommer un nouveau premier ministre après la démission de Soumeilou Boubey Maïga et de son gouvernement. Une dizaine de civils tués au Cameroun dans une attaque de Boko Haram. Au Soudan, on annonce la formation imminente d'une autorité civile pour gérer les affaires du pays. En RDC, la Cour de cassation a blanchi l'opposant Moïse Katumbi, actuellement en exil. Au Burundi, un commissaire de la police menace ouvertement d'éliminer des opposants qui, selon lui, tiennent des réunions clandestines chez eux. Donald Trump dénonce des témoignages montés de toutes pièces dans le rapport du procureur spécial. Et dans 10 minutes, vous suivrez notre page des sports et l'actualité économique. Mais pour l'instant, le journal. Au Mali, le premier ministre Soumeilou Boubey Maïga a démissionné avec son gouvernement. Démission intervenue moins d'un mois après la tuerie de 160 civils peuls dans le centre du pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta a accepté la démission du premier ministre et celle du gouvernement d'après le communiqué de la présidence. Le texte ajoute qu'un premier ministre sera nommé prochainement et un gouvernement formé après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition. Nommé en décembre 2017, Soumeilou Boubey Maïga a été reconduit en septembre 2018. Sa démission est intervenue à la veille de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure déposée par des députés de l'opposition et de la majorité. Depuis des semaines, d'influents dirigeants religieux musulmans réclamaient le départ du premier ministre. Le 5 avril dernier, des milliers de personnes ont marché à Bamako contre ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion du pays. Le 23 mars, 160 villageois peuls ont été tués à Ogossagou, dans le centre du pays. Le président Keïta a annoncé l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril sur un projet de révision constitutionnelle.
Et au Bénin, deux anciens présidents ont appelé à la mobilisation contre l'exclusion de l'opposition des élections législatives prévues le 28 avril. Nicéphor Soglo et Boni Yayi se sont rendus aujourd'hui dans le plus grand marché du pays à Cotonou. Les Béninois sont appelés aux urnes le 28 avril prochain pour élire les 83 députés du Parlement. Mais seuls deux partis proches du président Patrice Talon ont pu présenter des listes. L'opposition a été exclue du scrutin en vertu du nouveau code électoral et les autorités ont interdit toute manifestation dans le pays. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Dans le nord du Cameroun, 11 personnes ont été tuées par des djihadistes nigériens de Boko Haram qui multiplient les attaques meurtrières dans les pays voisins. N'est-ce pas, Nathalie Barge?
La nuit dernière, Boko Haram a fait une incursion à Tchakamari, dans l'extrême nord du Cameroun, tuant 11 civils, dont des enfants. Selon les services de sécurité, disant que les assaillants ont incendié le village. Ce village a déjà été la cible du groupe djihadiste. En 2015, une dizaine de personnes avaient été tuées et une centaine d'habitants enlevés. Les attaques se multiplient ces dernières semaines dans les pays de la région du lac Tchad. Depuis le début du mois, 7 militaires camerounais sont morts dans l'explosion d'une mine et lors de l'attaque d'un poste de la force multinationale mixte. Le week-end dernier au Tchad, 7 soldats ont été tués et un poste de gendarmerie a été pris pour cible. L'armée tchadienne affirme avoir éliminé plus d'une centaine de djihadistes dans ses opérations militaires et Boko Haram a tué au moins 30 soldats depuis début mars.
RDC, au moins une personne a été tuée aujourd'hui dans l'attaque contre un hôpital à Butembo, selon le directeur général de l'OMS. La victime est un médecin camerounais qui participait à une réunion d'une équipe anti-Ebola, prise pour cible par un groupe rebelle. Toujours en RDC, la Cour de cassation a acquitté dans une affaire immobilière l'opposant Moïse Katumbi en exil. Sa condamnation à 3 ans de prison par un tribunal de Lubumbashi a été également annulée. Eddy Sango a joint son avocat, maître Jean-Joseph Mukedi.
La Cour de cassation vient de me notifier pour le compte de Moïse Katumbi l'arrêt rendu le 17 avril et au terme duquel la Haute Cour annule la décision du tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo qui avait condamné Moïse Katumbi à 3 ans avec arrestation immédiate pour un problème d'immeuble appartenant à un sujet grec. Il y a bien sûr la cause dite de des mercenaires qui est maintenant soumise à la Cour constitutionnelle, mais la procédure peut suivre son cours étant donné que dans cette procédure, Moïse Katumbi peut comparaître sans contrainte parce qu'il est considéré comme étant en liberté. Il n'est pas en détention. La décision qui risquait de le faire appréhender, c'est celle des condamnations de 3 ans. Dans l'affaire de mercenaires, il y a juste une instruction qui se poursuit devant la Cour de cassation, mais qui est suspendue suite à une demande introduite devant le Conseil d'État. Et il n'y a donc pas un risque. Et M. Moïse Katumbi est une personne totalement libre. Il peut donc revenir quand il le décidera.
Maître Jean-Joseph Mukendi, l'avocat de Moïse Katumbi. Au Burundi, un commissaire de la police provinciale de Muyinga, dans l'est du pays, a publiquement menacé d'éliminer les membres de l'opposition et leurs familles qui organisent, selon lui, des réunions clandestines à leur domicile. Jérôme Nobigorora a assuré qu'il a des engins explosifs qu'il suffit de lancer dans la maison pour en finir sur place. Et si tu es avec ta femme et tes enfants, vous allez tous périr, a-t-il ajouté, répondant à des questions sur la répression qui frappe les militants de l'opposition. Au Soudan, les chefs de la contestation annoncent la formation prochaine d'une autorité civile en charge des affaires du pays. Le point avec Bagasikoura.
Au 14e jour de leur sit-in devant le quartier général de l'armée, les manifestants disent leur intention de rester là jusqu'au départ des militaires du pouvoir. Depuis le renversement d'Omar El-Béchir, un conseil militaire de transition a pris le pouvoir et résiste aux appels à transférer ce pouvoir à une administration civile. Les manifestants annoncent dans un communiqué que les noms des membres d'un conseil civil en charge des affaires du pays seront annoncés lors d'une conférence de presse dimanche devant le QG de l'armée. Les chefs de la contestation n'ont pas donné davantage de précisions sur leurs intentions. Aucune réaction de l'armée n'était disponible dans l'immédiat. Il y a 4 mois, jour pour jour, un mouvement populaire a commencé dans le pays pour protester contre le triplement du prix du pain. Il s'est rapidement transformé en contestation contre le général Omar El-Béchir, qui a été destitué le 11 avril par l'armée après près de 3 décennies au pouvoir.
Une foule très importante a manifesté sans incident à Alger pour un 9e vendredi consécutif, marqué par de nombreux cortèges à travers l'Algérie. Les contestataires, forts de leurs succès successifs, refusant la transition engagée après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Le FMI a annoncé le déblocage d'urgence de plus de 118 millions de dollars pour soutenir le Mozambique, dévasté par le passage du cyclone tropical Idai le 14 mars. Cette aide doit contribuer à assister les autorités à aider les plus pauvres et à la reconstruction des infrastructures détruites.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au lendemain de la publication du rapport du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du président américain et la Russie en 2016, Donald Trump dénonce ce qu'il appelle des témoignages montés de toutes pièces. Les précisions de Irénée Herman Ungbo.
Des allégations sont faites sur moi par certaines personnes dans le délirant rapport Mueller, lui-même écrit par 18 démocrates en colère enragés contre Trump, qui sont montés de toutes pièces et totalement fausses, écrit le président américain dans un tweet matinal. Certaines de ces allégations sont des conneries absolues, a indiqué M. Trump dans un autre tweet. Faites attention aux gens qui prennent des soi-disant notes quand les notes n'ont jamais existé jusqu'à ce qu'ils en aient eu besoin, a-t-il renchéri. Le rapport Mueller cite comme source de certains de ces passages des notes prises par des responsables de ministères, par exemple. C'est une anarchie qui a commencé de manière illégale et qui n'aurait jamais dû se produire, ajoute-t-il en référence à l'enquête. Après 22 mois d'investigation sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, Robert Mueller a conclu qu'il n'y avait pas eu d'entente entre l'équipe du républicain Donald Trump et Moscou dans son rapport publié jeudi. Mais si Trump a crié victoire, s'estimant totalement exonéré, ses conclusions ne l'ont en revanche pas blanchi des soupçons d'entrave à la justice.
Au Venezuela, le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, a appelé à la plus grande manifestation de l'histoire de son pays le 1er mai pour que cesse l'usurpation du pouvoir dont est coupable, selon lui, le président Nicolas Maduro. Et le président syrien, Bachar al-Assad, a appelé à la mise en œuvre d'un accord censé résoudre la situation à Idlib. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique, suivez Morgane Guériec pour la Minute Éco.
Angola, le chef de l'État, João Lourenço, a annulé la licence de téléphone mobile accordée récemment à une jeune entreprise locale. La décision a été prise pour non-respect des exigences de la part de l'entreprise gagnante, Telstar. Un nouvel appel d'offres va être lancé, selon un communiqué de la présidence. Telstar avait décroché la semaine dernière la licence du quatrième réseau mobile angolais au prix affiché de 120 millions de dollars. Actuellement, deux entreprises privées se partagent la quasi-totalité du secteur de la téléphonie mobile en Angola, Unitel 80% et Movicel près de 20%. Considérée comme la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos, fille aînée de l'ex-président José Eduardo dos Santos, possède plus de la moitié du capital d'Unitel. Sa demi-sœur détient, elle, des parts dans celui de Movicel. Les comptes de la Société internationale de plantation DVA, SIPH, numéro 1 de la production de caoutchouc en Afrique, sont restés tout juste bénéficiaires en 2018, plombés par la chute des cours du caoutchouc au cours de l'année. La compagnie, très majoritairement dans le giron du groupe ivoirien Sifka et du français Michelin, a dégagé un bénéfice net de 2,3 millions d'euros sur l'exercice 2018 contre 36,4 millions en 2017, indique un communiqué. En moyenne, les cours du caoutchouc se sont établis à 1,115 euros le kilo sur l'année contre 1,47 euros le kilo en 2017 avec une baisse entre le premier et le deuxième semestre de 1,18 euros à 1,13 euros.
Et nous passons directement à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Destination d'abord à Libreville, des noms circulent pour le poste de sélectionneur du Gabon deux semaines après l'appel à candidature.
Oui, Eric, les Français Didier Six, Claude Leroy, Roland Courbis et Patrice Carteron ont déposé leur dossier. Âgé de 48 ans, Patrice Carteron, actuel entraîneur du Raja Casablanca, a porté le Mali en quart de finale de la CAN 2015. Roland Courbis, 66 ans, était entre autres entraîneur du Stade Rennais, Montpellier, puis des Lions Indomptables du Cameroun. Considéré comme le favori parmi tous les postulants, Didier Six a été sélectionneur du Togo de 2012 à 2013 et de Maurice en 2015. Le plus âgé de tous, Claude Leroy, 71 ans, a atterri en Afrique en 1985 et a entraîné le Cameroun. Il a ensuite été sélectionneur du Ghana, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Congo et du Togo qui n'a pas réussi à qualifier pour la prochaine CAN en Égypte.
Et au-delà de l'Atlantique, Yacouba, c'est un week-end de possibles consécrations qui s'annoncent. Eh bien, nous parlons de l'Europe.
Tout à fait, Eric. Il suffit d'un point à la Juventus Turin pour remporter un huitième titre de rang. Quatre jours seulement après son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam, la Juve reçoit demain la Fiorentina lors de la 33e journée de Serie A. En France, après trois ratés, le PSG tient contre Monaco une nouvelle occasion de décrocher son huitième championnat. Une victoire suffit aux Parisiens pour être titré. En Angleterre, le vainqueur de la Premier League ne sera pas connu à la faveur de la 35e journée. Mais on aura demain Manchester City Tottenham Acte 3. Les Citizens reçoivent à nouveau les Spurs trois jours après leur élimination par Tottenham en Ligue des Champions.
Et le football s'invite dans la lutte contre le racisme. Des footballeurs boycottent les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il, Yacouba?
Il s'agit du syndicat des joueurs de football professionnel d'Angleterre et du Pays des Galles qui a appelé les joueurs à faire la grève des réseaux sociaux. L'opération appelée ENAF AC a débuté aujourd'hui et dure 24 heures. Et d'après le syndicat, ce boycott ne vise pas seulement ceux qui utilisent les plateformes pour lancer des insultes racistes, mais aussi les réseaux sociaux eux-mêmes et les autorités du football pour qu'ils agissent en conséquence. Utilisateur prolifique d'Instagram, l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, victime lui aussi de racisme, et celui de Tottenham Harry Kane, ne devrait rien poster pendant 24 heures.
Et avant de nous quitter, Luanda va abriter les derniers matchs de la FIBA Africa Basketball League.
Oui, c'est ce qu'a annoncé l'instance continentale. Le Final Four qui regroupe les quatre meilleurs clubs de la compétition aura lieu du 24 au 26 mai. La SALE du Maroc, Primero Agosto d'Angola, JS Kawan de la Tunisie et Smoa d'Égypte vont s'affronter durant tout le week-end pour remporter le trophée de l'Africa League. Il y aura des demi-finales puis la finale. Un match de classement pour la troisième place est aussi prévu. Le tirage au sort du Final Four aura lieu le 27 avril à Abidjan au siège de la FIBA Afrique.
C'était l'espoir de Yacouba Ouedraogo. À la semaine prochaine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manilakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, on attend désormais la nomination d'un nouveau Premier ministre, Soumeilou Boubey Maïga, qui était en poste depuis 16 mois, a démissionné avec son gouvernement ce jeudi soir. Il faisait face à une fronde de députés de la majorité de l'opposition qui comptait adopter aujourd'hui une motion de censure contre son gouvernement. De Bamako, les précisions de Kassim Traoré.
C'est à la surprise générale que tard dans la nuit d'hier, Soumeilou Boubey Maïga a rendu l'établier. Les Maliens sont désormais dans l'attente de la nomination du sixième Premier ministre du président Ibeka. Il faut dire que ces dernières semaines, la situation sociopolitique était très tendue, notamment autour du Premier ministre Maïga. À Bamako et dans les grandes villes du pays, plusieurs marches ont été organisées par les musulmans, les partis politiques de l'opposition et la société civile pour exiger la démission du Premier ministre. Baba Dakono, chercheur.
Cette démission est survenue à la suite d'un discours protestateur qui a eu un écho favorable au niveau de l'Assemblée nationale. Pour le Premier ministre lui-même, on imagine que le poste de Premier ministre n'était pas la destination de sa carrière politique. Donc c'est un coup, mais comme les gens qui le connaissent le présentent comme un stratège, il saura se relever après ce coup. Maintenant, pour le Mali, les attentes sont toujours super élevées. Il est important pour le président de la République de déterminer la meilleure politique qu'il faut pour le pays et les meilleures personnes pour porter cette politique-là. Parce que quand les attentes sont grandes, il est facile de décevoir.
Dans les rues de Bamako, certains saluent la décision de Boubey, même s'il a été forcé par les frondeurs. Mohamed Ben Mamata Touré de la société civile.
Que je salue tout d'abord le Premier ministre vu son courage de rendre cette démission avant la session de l'Assemblée nationale. Je dirais que c'est vraiment quelque chose de salutaire et ce que le peuple a cherché, le peuple l'a eu. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas que les autorités essayent de défier le peuple parce que le dernier mot revient toujours au peuple. Comme l'a dit Thomas Sankara, le seul fétiche qu'on ne peut pas vaincre, ça c'est le peuple.
Le futur chef de l'exécutif sera le sixième du président Ibeka, arrivé au pouvoir en 2013, Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication du parti URD.
Oui, peu importe le nombre, vous savez, ce qui est important, c'est d'avoir, que ce soit président de la République, un Premier ministre, des membres du gouvernement, qu'il accepte de travailler pour rassembler les Maliens, pour s'occuper des préoccupations des Maliens, qui sont très connues. Hein. Le problème d'insécurité, il faut arriver à la vaincre, coûte que coûte, vaille que vaille. Il faut aujourd'hui régler les problèmes sociaux, la crise aujourd'hui qui sévit dans notre pays. Il faut régler aussi la dette sociale, la dette intérieure du pays.
Pour les plus optimistes, cette démission est une aubaine qui permettra au pays de sortir du gouffre. C'est en tout cas ce que pense Chekena Camara de la majorité présidentielle.
Chacun doit prier pour que véritablement cette page qui vient d'être tournée ouvre la voie à une nouvelle page d'espérance qui permettra à chacun, n'est-ce pas, de pouvoir véritablement alors se sentir dans un pays en paix, dans un pays où les leaders politiques particulièrement, n'est-ce pas, vont travailler dans le dialogue, dans la concertation, dans l'entente.
Pour Maître Demba Traoré, le changement de Premier ministre n'est pas suffisant. Si le président de la République ne prend pas la mesure des préoccupations des Maliens.
Donc c'est un signal fort à l'endroit du président. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'il sorte de son château pour vraiment écouter le peuple. J'ai l'impression qu'il n'écoute pas le peuple. J'ai l'impression qu'il n'est pas en phase avec son peuple. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans un exercice démocratique. Il faut qu'il accepte de respecter son peuple. Au finish, il faut qu'on s'occupe des problèmes des Maliens. C'est ça le plus important aujourd'hui.
Le président Ibeka a entamé ce vendredi de nouvelles concertations en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, l'ancien président Boni Yayi appelle ses compatriotes à la résistance pour des élections inclusives. Il a fait cette déclaration hier, entouré des membres de l'opposition. Des précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Pas d'élection sans l'opposition, c'est le mot d'ordre lancé par l'ancien président Boni Yayi qui invite les populations à préserver les acquis démocratiques en stoppant l'actuel chef d'État dans son élan. Pour lui, Patrice Talon entretient l'exclusion et la dictature.
Au cas où le président Patrice Talon s'obstinerait à conduire le pays dans le monolithisme politique total et profond, toute chose contraire à notre constitution, du 11 décembre 1990, j'invite tous les Béninois à user du pouvoir que nous donne notre loi fondamentale pour faire arrêter le processus électoral périlleux en cours afin de rechercher et de trouver sans délai les solutions idoines pour organiser des élections législatives véritablement inclusives.
Il sera rejoint dans son élan par le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a vu le siège de son parti occupé par des forces armées. Pour lui, la liberté d'aller et de venir est désormais un luxe au Bénin.
Il n'est pas pensable que dans le pays de ceux qui ont résisté à l'invasion étrangère, qu'aujourd'hui nous n'ayons pas la possibilité de rentrer dans nos maisons. Nous avons dit résolument non à la tyrannie, à la dictature.
Les appels au boycott des élections se font de part et d'autre, mais dans le camp des candidats aptes à compétit, on se désole du discours tenu par l'ancien chef d'État. Pour Bernard Ouimbo, membre du bloc républicain, l'opposition s'est elle-même disqualifiée pour les législatives.
Est-ce qu'en son temps, ça s'est passé comme ça? On l'a arrêté pour toutes les élections que lui l'a organisées? Soyons sérieux. Est-ce que pendant que lui était aux affaires, il n'y a pas eu d'opposants? Il n'y a pas eu de mouvanciers? S'il y en avait eu, est-ce qu'ils ont dit de ne pas voter? Mais quelqu'un a déposé son dossier, on l'a rejeté. Moi, j'ai appelé la population à sortir. Je sais qu'elle va sortir.
En attendant, la campagne il se poursuit. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, face aux appels à la révolte, a tenu à avertir. Sakalafia est le ministre de l'Intérieur.
Ceux qui promettent de brûler tout seront brûlés les premiers. Ceux qui promettent au cours de cette campagne électorale de casser tout auront des fractures multiples. Car notre pays est un état de droit. Le gouvernement a la responsabilité de protéger tous les citoyens.
Outre les appels au boycott des élections, certaines organisations de la société civile, membres de la plateforme électorale, se sont retirées de ce creuset, regrettant l'absence de compétition dans le processus électoral en cours. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Dans l'est de la RDC, le groupe État islamique revendique pour la première fois une attaque à Kamango, près de la frontière avec l'Ouganda. Dans deux messages successifs publiés via son agence de presse officielle AMAC le 18 avril, le groupe parle d'une caserne attaquée dans le village de Bovata. Trois personnes ont été tuées, cinq autres blessées. Cette revendication est-elle surprenante? Idriss Fall a joint Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
Ça ne me surprend pas, d'autant plus que cette revendication porte deux messages. Le premier message, l'État islamique veut montrer à tous ceux qui doutent que c'est lui qui signe les massacres qu'on connaît dans la région de Beni. Le deuxième message, c'est un message d'encouragement aux combattants, dans la foi pour leur dire, vous combattez pour Allah, nous sommes avec vous, continuez les combats au nom d'Allah et nous vous soutenons.
On parlait souvent des rebelles ADF ougandais, des rebelles musulmans, mais qui est à la tête de ce groupe?
Il est difficile aujourd'hui de dire qui est à la tête parce que la création même de ce groupe qui a une identité cachée, parce qu'ADF n'est pas le vrai nom, la création de ce groupe remonte au séjour de Jamil Mukul au Soudan, où il a été disciple de Bin Laden, l'Égyptien Al-Zawahiri et Al-Turabi. C'est entre 1993 et 1996 avant que le Soudan expulse Bin Laden. Alors, on leur a donné la mission d'aller créer des États, d'aller créer des bases pour faciliter effectivement l'installation du califat. Il y a ceux qui sont partis vers la Tanzanie, d'autres vers le Kenya, et lui, il a choisi les Rwenzori où la nature lui était très favorable.
Mais Al-Qaïda et le groupe État islamique, bon, il y a des différences, il y a des divergences même.
Oui, il y a des divergences, il y a des différences, mais c'est dans l'objectif. Vous savez qu'au départ, ces deux groupes qui se sont donnés pour mission, l'installation de la Sharia, la loi islamique. La deuxième mission, cette conversion, si elle n'est pas volontaire, elle doit se faire par l'épée, par la Kalachnikov. Au moins sur ces deux principes, ils parlent le même langage. Maintenant, il y a des divergences. Ceux de Rwenzori, de Beni et Madina, comme on dit, n'ont pas eu de leader charismatique. Ils se sont tournés vers les Chebab parce qu'ils ont reçu des formations de Somaliens. Les premiers contingents formés dans les années 2008, 2009 et 2010 sont allés et en Somalie et en Afghanistan. Donc vous comprenez la complexité pour mettre le nom à un chef pour le cas de ce qui nous concerne, qu'on appelle abusivement les ADF.
Nikez Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
VOA Afrique en direct de Washington.
Après 22 mois d'enquête, le rapport du procureur spécial Robert Mueller a été rendu public ce jeudi. Il n'a trouvé aucune preuve de complot entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie. Les démocrates veulent utiliser ce rapport pour demander une enquête du Congrès sur la question de l'obstruction à la justice. Le point avec John Lindon.
À la Maison-Blanche, le président Donald Trump est satisfait de la publication du rapport Mueller.
Je passe une bonne journée aujourd'hui. Nous disons qu'il n'y a pas de collusion, pas d'obstruction. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais.
Par contre, le rapport brosse un tableau différent sur la question de l'entrave à la justice en détaillant de nombreux cas où le président a tenté d'influencer l'enquête. À un moment donné, selon Chad Day de la société de presse, M. Trump a ordonné à l'avocat de la Maison-Blanche, Don McGahn, de faire renvoyer le procureur spécial Robert Mueller.
McGahn a rejeté l'idée, mais cela montre comment le président, et le rapport le cite, considérait l'enquête comme susceptible de mettre fin à sa présidence et pourrait menacer son pouvoir.
Le rapport décrit de nombreux contacts entre des associés de la campagne Trump et des Russes en 2016, mais conclut à l'absence de preuves d'un complot criminel entre l'équipe de campagne et la Russie. Quant à l'obstruction à la justice, le rapport n'a pas conclu que Trump a commis un crime, mais ne l'a pas exonéré non plus. En fin de compte, c'est le ministre de la Justice William Barr qui a décidé que les preuves d'obstruction ne justifiait pas une action en justice.
Indépendamment du fait que les actes ont été ou non une obstruction, la preuve du motif non corrompu pèse lourdement contre toute allégation selon laquelle le président a eu l'intention de faire obstruction à l'enquête. Les démocrates n'ont pas été convaincus et ont rapidement promis de poursuivre l'enquête.
Gerald Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre.
Le procureur spécial a clairement indiqué qu'il n'avait pas exonéré le président et il incombe maintenant au Congrès de tenir le président pour responsable de ses actes. Le Congrès doit obtenir le rapport complet et non expurgé, ainsi que les preuves sous-jacentes révélées par l'enquêteur Mueller.
Ces questions d'obstruction pourraient continuer à jeter des nuages sur la Maison-Blanche pour David Abraham, analyste juridique de l'Université de Miami.
Je ne suis pas sûr que les résultats constituent une victoire pour le président, mais ces affirmations vont à l'encontre des faits concernant l'efficacité des interventions russes et sur l'ampleur des efforts d'obstruction déployés par la Maison-Blanche.
La controverse sur le rapport Mueller laisse penser que le débat sur les actions de Trump va encore s'éterniser, selon Bill Sweeney de l'Université américaine à DC.
Si cela dure des semaines et des mois, ce sera un autre sujet de division dans un pays déjà divisé.
Le ministre de la Justice a été invité à témoigner devant le Congrès le mois prochain et les démocrates veulent aussi entendre le procureur spécial Robert Mueller dans un avenir proche.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition de 19h30, temps universel. Merci de l'avoir suivi à la console Cornelius Chinor. Merci à Firmin Koyaweda pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction pour le suivi de l'actualité. Eric Manirakiza à Washington vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.